Papa. Alors, pape, c'est sur la première déclinaison, mais c'est masculin. Habemus papam. Nous avons un pape. P-A-P-A-M. Papa. Pape. Le pape. Servus servorum Dei. Le serviteur des serviteurs de Dieu. Hein? Servus, le serviteur, même l'esclave, hein, servus, hein, normalement. Servorum, génitif pluriel. Le serviteur des serviteurs, complément du nom servus. Dei, de Dieu. Alors, petit exemple. Et si on le mettait au vocatif? Eh bien, ça serait toujours papa, puisque c'est rosa, rosa, rosam. Papa, papa, papam. Papé, papé, papa. Papé, papé, papas. Paparum, papis, papis. Eh bien là, vous avez papa, le haut pape, servé, servorum Dei. Serviteur des serviteurs de Dieu. Au vocatif.
Mon papa vient de là.
De père, pater.
Les enfants qui disent papa, ça vient de là.
Ça vient de là, oui. C'est du pur latin. Et papa, c'est du latin. Donc ceux qui n'aiment pas le latin, vous voyez, alors ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire à leur père, je sais pas. Blub, blub, blub. Voilà. Blub. Quatrième exemple, Angelus Domini. L'ange du Seigneur. Alors là, c'est un beau Domini. Alors comment on peut se dire mais pourquoi c'est un complément d'objet direct? Ça peut être un sujet au pluriel. L'ange, les seigneurs, ça ne veut rien dire. Angelus Domini nunciavit Mariae. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie. Alors on va décliner Marie. Maria, Maria, Mariam, Mariae, Mariae, Maria. Donc Mariae, Angelus Domini nunciavit Mariae. C'est quel cas? C'est quelle fonction grammaticale? Un datif. J'annonce à Marie. Complément d'objet indirect ou complément d'attribution. C'est un datif. Est-ce qu'on aurait pu dire Angelus Mariae Domini, enfin l'ange de Marie du Seigneur? Enfin non, c'est pas du génitif. En première déclinaison, Mariae, ça peut être le génitif, le datif, le nominatif pluriel et le vocatif pluriel.
C'est le sens de la phrase qu'il veut.
Vous voyez, les maris de la mère. Mariae, Mariae, Marias, Mariarum, Mariis, Mariis. Mariais, Mariais. Non, Rosis, non. Donc, Mariis, Mariis. Hein, c'est difficile. Mais les maris de la mer, ça existe. Hein. En latin, on dira au pluriel, Marie. 5. Jesus Christus Agnus Dei. Est-ce que c'est vocatif ou est-ce que c'est nominatif? Est-ce que c'est sujet ou apostrophe? Jesus Christus Agnus Dei. C'est un nominatif. Et si maintenant on le mettait au vocatif? Jesu Christe Agnus Dei. Puisque Agnus, c'est exceptionnel, ne prend pas agné. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, c'est du vocatif. Agneau de Dieu, qui, qui, Q-U-I, ça donne en français Q-U-I, c'est relativement facile. Qui, ça se prononce différemment, mais c'est pas pour ça que ça veut dire autre chose. Qui, tollis, qui prend, peccata, c'est du pluriel neutre, les péchés, mundi, du monde. Mundus, munde, mundum, mundi, mundo, mundo, mundi, mundi, mundos, mundorum, mundis, mundis. Le monde. Si l'on continue, discipulus Jesu Christi. Mais vu la particularité du mot Jésus, qui en fait n'a que trois formes, Jésus, Jésus ou Jésum. Donc là, qu'est-ce que ça va être? On va pas dire que c'est du vocatif. Le disciple, ô Jésus, du Christ, ça ne veut rien dire. Ah non, un nominatif, non. Ça sera Jésus. Donc le disciple pour Jésus, datif. Non, parce que Christi, ça serait Christo. Un disciple pour Jésus-Christ, ça serait Jésus Christo. Ici, discipulus, Jésus Christi, de Jésus-Christ, c'est génitif, complément du nom disciple. Jésus-Christ est complément du nom disciple. Petite gymnastique, et surtout, la connaissance d'un complément du nom. Pour nous, c'est tellement habituel de dire, je ne sais pas, la porte de l'église. Si on lui demande, quelle est la fonction grammaticale de l'église, dans la porte de l'église? Là, les gens, ils vont... c'est complément du nom. Mais en latin, c'est un drame. Le complément du nom est essentiel. Ils vivent pour le complément du nom. Ils déclinent pour le complément du nom. Le génitif, pour eux, et c'est vital. Voyez. Donc comprenez que pour les latins, le génitif, ils sont engendrés par le génitif. Voyez. C'est très important, le génitif. Mettez-vous bien ça dans la tête. Parce que ils mettront pas « de ». Nous, à chaque fois qu'on a un complément du nom, en fait, on a une préposition. La porte de l'église, la couronne du roi. Mais si on vous dit « couronne roi » ou « porte église », vous dites « vous pas appris parler quand jeune était moi si, moi romain, moi latin hein. ». Langue Cicéron, moi parler. Ah bon? Vous voulez dire la langue de Cicéron? Non, langue Cicéron. C'est comme ça qu'on parle, nous les latins. Ah bon. Et donc c'est le mot qui va en lui-même avoir ce sens de génitif. Discipulus Jesu Christi. Du coup, Hymnus Christo Domino, un hymne pour le Christ Seigneur. Là, c'est quelle fonction grammaticale? Pour le Christ Seigneur. C'est un datif, complément d'attribution, complément d'objet indirect. Gloria Jesu Christo. Ah, et là, ils sont finaux. Gloire à Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Donc, c'est datif aussi. Donc Jésus ici, c'est du datif en l'exemple 8. Mais Jésus en exemple 6, c'est du génitif. Et en exemple 2, c'est du vocatif. Alors pourquoi il nous embête avec le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus est quand même très utilisé hein, dans la liturgie. Pour des raisons un peu basiques, n'est-ce pas, de la religion chrétienne. C'est son nom, c'est son petit nom, c'est son prénom. Hein. Donc on l'appelle souvent, voilà. Gloria Jesu Christi, là il y a un piège énorme, vous voyez, c'est comme pour discipulus. C'est quoi? C'est grâce à Christi qu'on fait la différence avec Christo. En fait, dans les deux exemples, le 8 et le 9, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est la gloire de Jésus-Christ et non pas gloire à Jésus-Christ? C'est le « i » de Christo, de Christus, qui vous permet de faire cette différence. Alors là, il joue bien avec les fins de mots pour vous faire réfléchir. Voyez. Ça, ce sont de très bons exemples. Voyez. Il n'empêche que Jésus, c'est la quatrième déclinaison et pas la deuxième. Voilà. Bon. 10. Liber discipulorum Jesu Christi. Je ne sais pas si les disciples avaient beaucoup de livres. Hein. Le livre des disciples de Jésus-Christ. Vous avez deux compléments du nom qui s'emboîtent. Eh bien, en latin, on dirait « Jesu Christi discipulorum libère ». Parce que normalement, le complément du nom est avant le nom. Donc c'est vraiment, si vous voulez, Cicéron langue parle. Il n'y a pas le « je » en latin. Donc Cicéron langue parle. Vous voyez ? Je parle la langue de Cicéron, en latin ça fait Cicéron langue parle. Hein ? Vous comprenez qu'on est un peu décontenancé parfois par le latin ? Vous voyez ? Ou je vois la comment dire blancheur, comment dit-on ? Enfin je vois ou alors mirror, j'admire la beauté de la rose. Eh bien, en latin, ça sera rose pulchritudo miror. Ça sera rose, beauté, j'admire. Vous voyez ? D'où la déformation de Molière. Vous voyez, il a dû faire du latin petit, il était là. Alors, de vos yeux, belle marquise, j'aime beaucoup. Enfin, et voilà, vous faites de la prose, sans le savoir. Donc, il change l'ordre des mots. Hein, j'aime vos yeux de c'est l'exemple de pour Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Comment ?
D'amour mourir me font belle marquise vos yeux.
Voilà, d'amour mourir belle marquise me font mourir vos yeux. Voilà. Alors ici nous allons avoir des exemples plus chrétiens. Le numéro 11, apostoli servi et discipuli filii dei. Les apôtres, serviteurs et disciples du Fils de Dieu. Eh bien, figurez-vous qu'il peut y avoir une deuxième traduction, puisque ce nominatif pluriel peut être aussi un vocatif pluriel. Domini, domini. Ô apôtres, serviteurs et disciples du Fils de Dieu. On peut aussi traduire comme ça. Exemple 12. Christus sponsus ecclesiae. Le Christ époux de l'Église. Maintenant, on va décliner Ecclesia sur Rosa. Ecclesia, Ecclesia, Ecclesiam, Ecclesiae, Ecclesiae, Ecclesia. Au pluriel, Ecclesiae, Ecclesiae, Ecclesias, Ecclesiarum, Ecclesiis, Ecclesiis. Eh oui, c'est le A qui saute, le AE du génitif, et il nous reste un petit I. Ecclesiis, Ecclesiis. Et quand saint Paul dit, mon souci, ce sont les églises. Déjà, hein, il met au pluriel l'assemblée de chaque des chrétiens dans différentes villes. C'est très beau, hein. Vous savez que la hiérarchie ecclésiastique, les apôtres, les évêques, saint Paul, sacre évêque d'Éphèse, Timothée, sacre évêque de Crète, Tite. Hein. Ecclesia sponsa Christi, l'Église épouse du Christ. Vous remarquerez que sponsa est posé à côté d'Ecclesia. Que sponsus est posé à côté de Christus. C'est apposé. Alors c'est le même cas, la même fonction grammaticale. Le Christ époux de l'Église. L'Église épouse du Christ. Vous voyez ? In persona Christi, c'est-à-dire le prêtre consacre ou vous pardonne dans la confession, dans la personne du Christ. In, c'est un complément circonstanciel de lieu abstrait dans la personne, Christi du Christ, génitif. En fait, en latin normalement, ça serait in Christi persona. Puisqu'on met normalement le complément du nom avant le nom qu'il complète. Dans l'ordre des mots latins, c'est in Christi persona. Et là, on a fait l'ordre français, in persona Christi, dans la personne, à la personne du Christ, dans la personne du Christ. Vous voyez ? Quand vous vous confessez, vous dites pas pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché, parce que nous, on n'a pas le pouvoir de vous pardonner. C'est bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché, et on va vous pardonner in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, au nom de Dieu. C'est pas moi qui vous pardonne, c'est pas moi qui absous vos péchés. Ah ben vous, c'est quand même vous qui appréciez un peu si c'est si on est dans les clous, hein. Oui, mais je ne fais que prononcer le jugement que prononcerait le Christ. C'est-à-dire que si un prêtre vous donne l'absolution alors que la volonté de Dieu n'est pas accomplie dans ce que vous dites, eh bien l'absolution est invalide. Il a beau vous le dire en serbo-croate ou en grec ou en latin ou en français, invoquer sur vous tous les saints du ciel, vous imposer les mains et tout ça, si vous avez aucun regret de vos péchés, si vous mentez en confession, ou alors si vous êtes dans un péché que vous ne voulez pas quitter, l'absolution ne sert à rien. In persona Christi, le prêtre, lorsqu'il vous donne l'absolution, c'est au nom de Jésus-Christ. Donc si il n'y a pas les conditions du vrai regret, le prêtre veut vous pardonner, mais au nom de Jésus, mais Jésus sait que vous mentez ou sait que c'est pas vrai. Oui. Enfin, si vous êtes de bonne foi, le bon Dieu vous donnera la grâce correspondante. Vous voyez? Mais il faut quand même avoir justement la bonne foi, la conscience et le regret, hein, pour la confession. Famulus et famula, le serviteur et la servante. Famuli et famulé, les serviteurs et les servantes. Famulorum et famularum, hein, la fidélité, parce que là quand même, un génitif comme ça tout seul, ça fait un peu bizarre comme exemple.
Quelle différence y a-t-il entre famulus et anchilé, c'est la servante.
Famulus, c'est le familier.
Ah oui,
c'est ça. Anchila, c'est peut-être la servante un peu plus éloignée. Le famulus ou la famulé, la famula, c'est peut-être quelqu'un de plus proche dans le vocabulaire latin. Vous demanderez à Cicéron, lorsqu'il a retrouvé sa tête à la fin des temps, puisqu'il a été le pauvre décapité, et on lui a coupé la tête et les mains, hein, parce qu'il avait écrit contre l'empereur, il avait parlé contre l'empereur. Ah, ça s'est mal passé. Enfin, gratia domini Jesu Christi, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Génitif, génitif, génitif. Vous voyez? Gratia Domini Jesu Christi. Inimicus ani lupus. Alors là, c'est sous-entendu le verbe être. Et là, il fait exprès. Normalement, si vous voulez, c'est ani lupus inimicus est. Non, même pas, c'est ani inimicus lupus est. C'est pas très honnête comme manière de faire là. Parce que ani ici, c'est l'ordre des mots français. C'est pas très correct. L'ennemi. Là par contre, excusez-moi, c'est ani. Ani c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ennemi de l'agneau. Oui, c'est ça. Il aurait dû dire ani inimicus lupus est. Vous voyez, l'ennemi de l'agneau est le loup. Et là, il a mis le sens des mots français. Donc c'est plus facile, mais c'est un peu bizarre. Inimicus, l'ennemi. Ani, de l'agneau. Lupus. C'est la raison pour laquelle inimicus est au nominatif et lupus est au nominatif. Qu'est-ce qui manque? Le verbe être. Et pourquoi il le met pas? Bon. Inimicus ani lupus. Eh bien, en latin, on préfère dire ani inimicus lupus.
C'est sous-entendu.
Oui. Inimicus dei diabolus. L'ennemi de Dieu est le diable. Sauf que Dieu, hein, il bouffe le diable, hein. C'est pas le loup qui... Le loup mange l'agneau, mais je peux vous assurer que le diable, il peut. C'est une souris qui dit où est le chat que je lui casse la gueule. Voilà, c'est. Voilà. Le diable n'a pas beaucoup de pouvoir. Et le seul pouvoir que Dieu lui a donné sur lui-même, c'est de laisser les pousser les hommes à le tuer. Mais le tuer dans sa nature humaine. Et pour en plus la résurrection. Donc, dans le film de Mel Gibson, vous avez le démon qui à la fin hurle de rage parce que justement, il a fait tuer le Christ. Et c'est une grosse erreur. Voilà. Et c'est trop tard. Voilà. Il comprend, mais seulement après. Il dit mince, j'ai tué l'innocent. Donc les mérites de cette mort sont infinis et il est écrasé. Un peu trop tard. Ouais. Hostia cibus animae. L'hostie est la nourriture. Alors ne vous étonnez pas. Hein. Hostia, c'est première déclinaison. Est la nourriture. Cibus, c'est deuxième déclinaison. Et comme c'est un nom, on ne va pas l'accorder comme un adjectif. L'hostie est la nourriture animée de l'âme. Si on décline anima, 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 animam, animé, animé, anima, animé, animé, animas, animarum, animis, animis. Ici, en latin, on dirait plutôt hostia animé cibus est. Donc là, il vous donne l'ordre des mots français. Hein? L'hostie est la nourriture de l'âme. Et là, Anno Domini 2012, l'année du Seigneur. À nouveau, vous voyez, Domini, ça peut être aussi le nominatif pluriel ou le vocatif pluriel. Mais si vous voulez, Anno Domini, on ne dit pas en l'année les Seigneurs. Donc, Anno Domini, l'année du Seigneur. Et Anno, c'est de l'ablatif. Ou alors, on dirait pour l'année du Seigneur. Mais ici, c'est un ablatif de complément circonstanciel de temps, dans l'année du Seigneur. Anno Domini, voyez. Et donc, à la fin de la page 25, sous les mots de vocabulaire, nous pouvons lire, on termine le vocabulaire. Fluvius, le fleuve, Imnus, l'hymne, Jésus, Jésus, Inimicus, l'ennemi, Lupus, le loup, Modus, le mode, la manière, Mundus, le monde, Numerus, le nombre, Oculus, l'œil, Paraclitus, l'avocat, Paraclet, hein, Populus, le peuple, Servus, le serviteur, mais plutôt l'esclave d'ailleurs, Sponsus, c'est l'époux, hein, voilà, Uterus, ventre, entrailles, ça donne utérus pour la femme. Les noms en US ne sont pas, comment dire, c'est de la déclinaison, sont les seuls à avoir une forme particulière au vocatif. Vous aurez remarqué que tous les autres mots latins ont le nominatif et le vocatif identiques. Voilà. Alors, est-ce que ça nous intéresse? Ben oui, parce que dans les prières, il y a beaucoup de... Dominus revient souvent, donc si on ne comprend pas dominer, que c'est du vocatif, voilà. Dominus, dominé. Mais il y a cependant quelques rares exceptions. Deus, Deus. Filius, Fili, et non pas Filii. Et Jésus, Jésus, et non pas Jésué, ou alors Jésus comme pour Manus. Voilà. Normalement, nous avons... J'ai parlé du latin pendant une heure. À chaque fois que j'ai dit des choses qui ne concernaient pas le latin, j'ai coupé. Mais ça fait 35 et 25 minutes. Normalement, voyez-vous, au bout d'une heure, vous comprenez plus rien. Donc, on peut achever encore 5 minutes si vous voulez, pour vous achever. Hein, mais pour la page 27, simplement... Je vous introduis le neutre pour la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que le neutre? Eh bien, c'est la théorie du genre sous les Romains. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ni féminin, ni masculin. Ouais. Sauf que, pas du tout, c'est, ça veut dire que ce sont des objets, ou des idées, ou des mots abstraits, qui ne sont pas vraiment ni féminins ni masculins. Par exemple, le mot « mot », c'est « verbum ». Vous voyez, le verbe, le mot, hein. Verbe, c'est le mot par excellence. C'est le mot qui, dans la phrase, indique la, la chose la plus importante, l'action, le verbe. Mais en soi, le mot « verbe » veut dire la parole. La, non, c'est avant qu'on attribue le mot verbe à Dieu, c'est un mot comme un autre verbe. Verbe, c'est le verbe de la phrase, c'est la parole. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ? Mon fils, c'est ma parole, c'est mon fils. Mais le mot parole ou verbe existait déjà en latin. Mais justement, Dieu utilise le langage humain pour exprimer ce qu'il est. C'est avant que Dieu se dise Père, on disait déjà Pater à son Père. Vous voyez.
À la page 27, là, on commence par Initium Evangelii, commencement de l'évangile. C'est pas sequentia.
Non, ici, c'est sequentia, c'est lorsqu'on n'est pas au début d'un évangile.
Ah, là, oui.
Mais ici, Initium, c'est parce qu'on est au début d'un des évangiles. Ça arrive 3 ou 4 fois dans l'année. Un morceau pendant l'évangile, au cours de l'évangile. Initium, ici, on l'utilise toujours pour le dernier évangile, à la fin de la messe. Oui. Initium Evangelii, ça veut dire que, ici, d'ailleurs, Evangelium, c'est aussi au neutre, sauf erreur de ma part. Et initium, c'est aussi un mot neutre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot neutre ? C'est un mot, justement, évangile, c'est ni masculin ni féminin. Commencement d'une phrase, c'est ni masculin ni féminin, voyez. Le désir, eh ben pour les Romains, c'est ni masculin ni féminin. Nous, on n'a pas de mot neutre hein, en français. On est ou féminin ou masculin. Voyez. Et alors, en, eh bien, en latin, on ne dira pas « us » ou « a », on dira « um », « um ». Alors, vous pourrez confondre avec « dominum », l'accusatif, mais le sens de la phrase vous fera comprendre que c'est un mot neutre. « Verbum, verbum, verbum ».« Verbi », ah, c'est quand même la deuxième déclinaison. Pourquoi ? Parce que le génitif est en « i ».« Verbum, verbum, verbum ». »« Verbi, verbo, verbo ». Verba, 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 verborum, verbis, verbis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est en A? C'est féminin? Non. Le neutre pluriel est en A. Peccatum, figurez-vous que c'est du neutre. Un péché ni masculin, ni féminin. Qui tollis peccata mundi, qui porte les péchés. Peccata. Eh bien, ça sera du de l'accusatif neutre pluriel. Vous avez en bas de la page 27, verbum, 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 verbi, verbo, verbo. Verba, 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 verborum, verbis, verbis. Eh bien, et a, nominatif, vocatif, accusatif, nominatif, vocatif, accusatif. Les trois premières formes grammaticales sont identiques aux neutres. D'où les exemples. Initium Evangelii, au commencement de l'évangile. Desiderium Celi, le désir du ciel. Sacrificium Incensi, le sacrifice de l'encens, offrir de l'encens. Preceptum Iuni, le précepte du jeûne. Verba Rosarii, c'est les paroles du rosaire. On traduirait plutôt par les prières du rosaire, d'ailleurs.
Rosarii.
Rosarii. C'est du génitif. Incensum in templo signum sacrificii. L'encens dans le temple est signe du sacrifice.
Pourquoi c'est rosarii, là, ça devrait être rosarii?
Non, parce que c'est rosarium.
Ah oui, rosarium.
Rosarium, rosarium, rosarium. Ah, oui. Rosarii, rosarii.
Ah oui, c'est rosarium.
Rosa, oui, rosarii, rosa. Non, rosarii, rosario, rosario. Rosarii, rosarii. Non, pardon, rosaria, rosaria, rosaria. Parce que c'est du neutre. Rosia, rosariorum, rosariis, rosariis. Non. Vexillium, c'est le drapeau. Vous voyez, c'est ni masculin ni féminin, un drapeau. Vexillium Christi, c'est le drapeau, l'étendard du Christ. Mandata Dei, ça vient de mandatum, donc c'est du pluriel. Eh bien, mais alors avec Rosa, on va être bien embêté. Mais c'est le contexte qui vous dira ce que c'est. Mandata Dei, hein. Oui. Donc, la prochaine fois, nous allons revoir ce neutre à la page 27. Vous voyez, souvenez-vous, rappelez-moi, on est à la page 27.